avec Élisane Pellerin, on va faire ensemble la revue de presse. Revue de presse qui va nous amener à aller dans les écuries, hein, disons-le.
Oui, allons dans les écuries, François. En France, à Plumiec, dans le Morbihan, au foyer des Corvicettes, qui utilise les vertus thérapeutiques du cheval pour compenser certains troubles de comportement.
De l'équithérapie.
Oui, mais on parle surtout d'équithérapie généralement là, pour des personnes qui ont des problèmes physiques.
Oui.
Mais là, dans ce cas-ci, on parle vraiment de troubles de comportement de 40 pensionnaires qui ont tous un handicap intellectuel qui les emmène à avoir des comportements. Des fois, au niveau de la gestion des émotions et tout ça, c'est plus difficile. Et donc, les chevaux vont aider au niveau de la gestion émotive, à être plus calme, à être plus détendu. Et on va utiliser aussi les chevaux au niveau de tous les entretiens, donc aider au niveau moteur avec les chevaux. Donc, les promener, faire la surveillance, faire les soins des chevaux, les nourrir. Et donc, ça aide à la fois, comme je disais, à calmer les tempéraments, à rediriger les émotions vers du positif, mais également à prendre une certaine autonomie parce qu'on soigne des animaux.
Oui, exact. Parce que les chevaux, ça demande de l'entretien.
Ça demande beaucoup d'entretien.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Dourneau, Séduisante et Mogador, c'est le nom des trois chevaux, font partie de la vie de tous les jours de ces 40 personnes. Ces trois chevaux sont les amis confidents à animaux de compagnie de 40 pensionnaires de la résidence, mais aussi ces chevaux-là, antérieurement, appartenaient déjà à un autre institut médico-éducatif.
Oui.
Donc, c'est des chevaux qui ont de l'expérience, parce que c'est important, ça aussi.
Et quand ça a été fermé en 2018, donc on a emmené les chevaux ailleurs. Mais oui, les chevaux sont habitués donc avec des personnes qui peuvent être parfois maladroites au niveau des soins. Et c'est des chevaux, évidemment, qui sont très calmes parce qu'un cheval qui panique n'aiderait pas là, à gérer des émotions.
un cheval nerveux, c'est autre chose. Puis, c'est pas petit. Hein?
Non, c'est pas petit. Un cheval, quand ça commence à kicker...
Contrôler
un cheval, c'est difficile. Il faut mieux le prendre très calme de prime abord.
Mais c'est bien. Puis, évidemment, les éducateurs et éducatrices qui accompagnent toute la démarche sont aussi habitués, expérimentés. Alors, l'équithérapie, c'est pas donné à tout le monde ou partout parce qu'un cheval, c'est quand même pas quelque chose qu'on peut traîner... Dans son auto pour aller visiter dans une institution.
Ça prend des installations en conséquence, bien sûr, et les chevaux coûtent très cher. On parle d'environ 5 000 $ par année pour conserver les chevaux, les trois chevaux à cet endroit-là. Et donc, il y a une levée de fonds qui est faite pour qu'on puisse garder les chevaux à cet endroit-là en France parce que, justement, là, si on n'arrive pas à avoir les sous nécessaires, il va falloir se débarrasser des chevaux qui sont les amis des pensionnaires.
Oui, puis ça, ce serait dur. Puis surtout qu'il y a des... Alors, tout ça, c'est à Plumelec, P-L-U-M-E-L-E-C, Plumelec, dans le Morbihan. Ça, on est vraiment au cœur de la Bretagne. Plumelec, là, c'est 2 700 habitants. Alors, c'est important, les chevaux, là-bas. Puis le foyer de vie, Corvisette, là, c'est quand même une belle expérience. Nous avions déjà eu ici à l'antenne quelqu'un qui se spécialisait en zoothérapie avec les chevaux.
Oui, ça marche très bien. Les chevaux étant des animaux très calmes et très sensibles.
Tout à fait. Qui renvoie le message bien.
C'est tout à fait possible de travailler avec eux. Puis, comme c'est des bêtes impressionnantes et quand même gracieuses, souvent, elles sont appréciées de la part des personnes. Là.
Parce que c'est vrai que c'est beau, puis en même temps...
On n'a pas la chance d'en voir tous les jours. Là,
non, voilà, tout à fait.
Pas quand on habite à Montréal.
On en voit souvent à l'écran, mais pas en vrai. À Lille, on vient de faire une avancée simple, mais...
C'est simple, mais combien utile. Y penser, François, donc à Lille... Il y a une entreprise qui s'appelle Épure qui a inventé des roues qui s'appellent Reef. Ça, c'est le nom des nouvelles roues, qui sont des roues avec un auto-freinant.
Ça, c'est sur un fauteuil
roulant. On change les roues du fauteuil pour mettre ces roues-là avec le frein qui est intégré. Pour les personnes en situation de handicap physique, savent là, que quand on est dans une côte, il faut freiner avec nos mains, littéralement.
Ça, c'est dur.
C'est dur physiquement. On brûle nos mains. Moi, je me suis brûlée à quelques reprises dans ma vie.
Puis si on a des mains valides, c'est déjà très difficile. Puis si la tête neurologique fait que notre préhension est pas super...
C'est très difficile de s'arrêter dans une côte.
Oui.
Et donc, il faut demander à ce moment-là à des gens de nous retenir et tout ça. Ça brime l'autonomie. Et voilà, il y a quelqu'un qui travaille en ingénierie qui a vu justement un monsieur dans la rue qui descendait à pleine vitesse et qui avait de la difficulté à s'arrêter.
Ouf.
Et qui, à ce moment-là, a compris que justement, pour freiner, il fallait freiner avec les mains. Ce que les personnes en situation d'handicap le savent, mais qu'une personne qui n'a pas d'handicap n'avait pas nécessairement vu venir, n'avait pas considéré. Et donc, il s'est dit qu'il avait inventé des roues avec un freinage intégré. Et donc, on parle d'une roue donc qui est dissociée de la main courante. Donc, on parle de deux cercles qui sont dissociés l'un de l'autre. Un cercle avec les roues qui tourne donc pour avancer.
Tourner, reculer, ainsi de suite.
Et un autre cercle... qui est à côté, donc à quelques pouces, qui, lui, ne tourne pas qui ne fait que freiner. Et donc, on prend la deuxième roue qui est fixe et on tire un peu vers l'arrière. Et c'est ça qui va faire en sorte de freiner le mécanisme.
Et ça, c'est ce chapeau. C'est M. Colin Gallois,
oui.
Qui est un des cofondateurs de la société Épure. Épure, ça s'écrit E-2-P-U-R.
Oui.
Parce qu'on voudrait que ces roues-là soit commercialisé. C'est des roues qui s'appellent DREFT, D-R-E-E-F-T. Je ne sais pas, peut-être, est-ce que c'est le nom de la ville ou de la région dans les Pays-Bas, en fait, où semble-t-il que M. Gallois a vu des vélos qui avaient ce système de freinage, puis s'est dit, on va reproduire ça sur des fauteuils roulants. Quoi qu'il en soit, ce serait bien, il me semble que c'est tellement bête et simple qu'il faille, mais d'un autre côté, le système de freinage. Sinon, on s'en tient à ne jamais descendre une côte seule.
Oui, ben voilà, ou essayer de descendre et puis se brûler un peu les mains, particulièrement quand on n'a pas de gants, puis c'est toujours quand tu as besoin de gants que tu n'en as pas.
Plus, ou simplement l'appréhension nécessaire, si on n'a pas la force de préhension ou la sensibilité nécessaire. Alors, il y a des témoignages de gens qui ont essayé cette roue qui n'est pas la roue directionnelle.
Oui. Donc, c'est comme une deuxième roue. Qu'on ajuste. Par contre, comme je le disais, il faut complètement changer les roues du fauteuil. Donc, enlever les roues qu'on a pour remettre une roue qui est double, comme je le disais tout à l'heure. Et on parle quand même de roues qui valent 2000 euros.
Oui.
C'est quand même dispendieux. On espère, par contre, qu'avec le temps, et peut-être éventuellement, quand d'autres compagnies s'y attarderont, que ça devienne un peu plus démocratique comme
ça
prix.
Ça puisse devenir, en fait, à la longue, la façon standard de construire...
De faire les choses, ce qui ne serait pas une mauvaise chose dans les
fermes. Sinon, ce serait assez épeurant. Moi, quand on pense à ça, moi, je pense au film Le cuirassé Potemkin de Eisenstein, qui est un film muet du début des années 20.
Vous vous doutez que je n'ai pas la référence.
Non, mais c'est correct. C'est un film muet qui a été fait au début de la Révolution russe en Russie, et où on voit les soldats du tsar qui descendent un escalier et qui tirent sur une foule. Et dans la cohue, il y a un pouce-pouce pour enfants qui dévale l'escalier monumental. Oh. Et ça, c'est comme le moment dramatique du
film.
Ça
doit créer quelques accidents, là.
Oui, voilà.
Année,
alors, moi, je pense à un fauteuil roulant qui n'a pas de frein, puis je m'excuse, c'est l'image qui m'est venue à l'esprit. Quoi qu'il en soit, cela dit, revenons à un autre sujet qui est vraiment lourd puis qui finit pas de nous blesser, si je peux dire.
Oui, on en a parlé la semaine dernière, François. Il y a le transport adapté pour les personnes qui vivent de la violence conjugale, particulièrement les femmes en situation de handicap. Donc, on parle de 39 % des femmes qui vivent avec un handicap qui seraient
victimes
de violence. C'est malheureux, c'est beaucoup. Et à Laval, on a un transport adapté qui a été mis en place pour les femmes qui auraient besoin de quitter le domicile familial de façon urgente et de façon anonyme. Donc, on a un système de transport adapté qui vont chercher ces femmes-là pour les emmener donc, dans des centres pour femmes violentées. Ça a été mis en marche à Laval au mois de mai 2021. Malheureusement, François, seulement deux Lavalloises ont fait appel au service depuis
en
2021.
Alors là, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que deux appels en deux ans, c'est pas vrai. Là, qu'il y a
alors
eu
qu'on parle de 39 % des femmes qui seraient victimes de violences. On voit donc que c'est une équation solide, sauf que ce qu'on pense, en fait, là, au transport de petit Laval, c'est que entre autres, que bon, les femmes sont mal informées.
Oui. Oui, parce que deux appels à deux ans,
voilà.
Ça marche pas.
Ça veut dire que ça a été très, très mal publicisé.
Oui.
Comme moyen. On pense aussi que les femmes doivent être évidemment au courant de ce qu'est la violence. C'est pas toujours la violence physique.
Non.
Donc, et aussi, évidemment, il faut penser que c'est bien beau d'avoir un transport qui est adapté, qui va aller chercher au milieu de la nuit, mais encore faut-il que les partenaires et les endroits qui reçoivent ces femmes-là soient adaptés à leurs conditions.
Aussi.
C'est pas toujours le cas. Donc, il y a vraiment un travail qui est à faire au niveau de la sensibilisation et pour faire connaître ce service-là qui est essentiel et malheureusement qui a été très peu utilisé.
Parce que effectivement, ça c'est certain que ce chiffre-là, deux appels en deux ans, ça veut dire zéro, ça veut dire, enfin, pas zéro, mais c'est impossible par rapport à la population lavalloise, le nombre de femmes en situation de handicap et le pourcentage très élevé qui sont victimes de violences conjugales. Mais comme vous le dites, ça peut... En ce moment, le protocole, si tout marche comme ça devait marcher... les femmes en situation de handicap vivant de la violence conjugale doivent premièrement appeler une des maisons de transport, une des maisons de SOS violence conjugale.
Donc, on a trois maisons d'hébergement à Laval ou SOS violence conjugale qui est un numéro un peu plus central. En tous les cas, il faut appeler soit à une des trois maisons, soit à SOS violence conjugale. Et à ce moment-là, indiquer qu'on est en situation de handicap et la maison où on appelle, le service où on appelle va coordonner un transport adapté pour venir nous chercher de façon évidemment anonyme et rapide, peu importe l'heure du jour ou de la nuit.
Ouais.
Et gratuite, peu importe l'heure à laquelle on a besoin de sortir du domicile.
Mais moi, je trouve ça troublant parce que c'est pas les deux appels en deux ans auxquels je pense, c'est les milliers de cas en deux ans qui n'ont pas pensé à ça ou qui n'étaient pas au courant ou qui n'ont pas pu
pour différentes raisons.
Exactement. Parce que...
Effectivement, là, c'est quelque chose qui... C'est un peu
c'est
triste
dur.
De mettre des ressources et que les ressources soient tellement mal... Les gens soient tellement mal informés que ça ne serve pas.
Exact.
Dieu merci, par contre, on n'appelle pas de fermer cette ressource-là
non,
malgré
non.
le manque de situation.
Une chance, parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui pourrait dire ben, « Finalement, ça ne sert pas. »
Ben voilà.
Ouais, voilà.
Et non, Dieu merci. Au contraire, on comprend qu'on a fait une erreur au niveau du transport de la ville de Laval. Dans l'optique, on a mal fait la publicité de ces choses-là. Et donc, on commence à faire des rencontres publiques pour expliquer le protocole dans différentes façons aussi, avec des moyens de communication adaptés aux personnes en situation de handicap pour être capable de diffuser un message beaucoup plus largement.
Oui, puis ça, c'est important parce que de cette façon-là, ben il faut que les femmes qui en aient besoin, un, se reconnaissent comme étant victimes, puis deuxièmement, puissent appeler. Il y a déjà un problème un petit peu en aval parce que souvent, les maisons ressources sont elles-mêmes peu ou pas adaptées.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Oui, exactement, vous le disiez, là, pour faire l'accueil. Là. Alors, enfin, quoi qu'il en soit, au moins, le constat amène à essayer de relancer
le projet et aussi, justement, de faire de la sensibilisation avec les partenaires autour pour que le service se mette en branle et qu'on n'ait pas d'obstacle quand les femmes vont appeler plus largement, qu'on n'ait pas d'obstacle à leur donner un service qui est adéquat et qui répond à leurs besoins particuliers.
Parfait. Ben, voilà, si vous êtes de Laval...
Sachez que ça existe et passez le message à vos concitoyennes particulièrement.
Oui, exact.
Parce que, effectivement, là, c'est un service qui est absolument essentiel et qui doit servir parce qu'on a mis des ressources et donc c'est un besoin auquel il faut répondre.
Tout à fait. Ben merci. On fait une pause puis on s'en va en Alberta.
On s'en va en Alberta après la pause, effectivement.
Bonjour, Élisane, de retour.
On s'en va en Alberta. Voilà. Donc, on s'en va en Alberta où le salaire moyen d'une aide-enseignante dans les districts scolaires est tombé sous le seuil de la pauvreté.
Ben voyons.
Là, il faut comprendre qu'un être enseignant, c'est quelqu'un qui est dans la classe pour aider enseignante avec les personnes qui ont des besoins particuliers. Un peu comme ici, les TES feraient dans les classes ici au Québec. Donc, d'accord, c'est vraiment quelqu'un qui aide au niveau de l'enseignement avec les personnes qui ont besoin d'un peu plus de soutien.
À l'intérieur de la classe. Et puis, ces aides enseignants n'ont pas vu leurs conditions de travail changer depuis 8 ans.
Donc, c'est énorme. Là, on parle de salaire annuel moyen qui est passé de 27 000 en 2022 à 26 400 en 2023. Donc, non seulement ça n'a pas augmenté, ça a diminué.
Ça a diminué. Puis, ne nous surprenons pas, le nombre de postes d'aide enseignant a chuté. Hein? Alors, c'est pas une carrière qui est
valorisée.
Point à la ligne, alors de dire, ben travaillez dans ce domaine-là, puis vous êtes sous le seuil de la pauvreté, alors qu'au contraire, ça devrait l'être, et puis que les besoins sont criants. Alors, il y a vraiment, je dirais, une dystopie.
Oui, une incohérence entre les besoins et les besoins qui sont très, très augmentants, parce que de plus en plus, on a besoin d'aide enseignante dans les écoles, parce qu'on a de plus en plus d'élèves avec des situations d'apprentissage qui demande un peu de soutien. Malheureusement, évidemment, là, si le salaire ne suit pas et qu'on passe sous le seuil de la pauvreté, il y a beaucoup de gens qui vont démissionner ou qui vont changer d'objectif de carrière parce qu'ils ne veulent pas vivre dans des conditions comme ça. Et donc, ça crée des problèmes de pénurie.
Ben voilà. Alors, dans le contexte de ce que l'on vit ici au Québec...
Oui, voilà, je trouvais que ça plus ça bien. Change, plus c'est pareil.
Oui, voilà. Hein? Ici comme ailleurs. À Québec, parlons du Québec, mais parlons de Québec, il y a dans tout le Québec, les femmes en situation d'handicap ont des problèmes pour recevoir des soins gynécologiques adéquats.
Oui, on en a déjà parlé un peu ici, François. Donc, évidemment, les femmes ont besoin d'avoir un suivi au niveau de la santé gynécologique. Mais encore faut-il que les femmes en situation de handicap soient capables d'accéder à la clinique et d'accéder aux tables de la clinique qui sont malheureusement, dans plusieurs cas, mal adaptées. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne en situation de handicap ne peut pas nécessairement monter sur la table si la table est trop haute. Il y a aussi, évidemment, toute la question de l'accessibilité de la clinique. Hein. La clinique doit avoir des rampes d'accès et ce genre de choses.
Un, il faut se rendre à la clinique.
Oui, voilà.
Deux, une fois à la clinique, il faut être en mesure de voir... faut que l'examen puisse avoir lieu. Puis, ce qui arrive à ce moment-là, souvent, un, les cliniques refusent. Ou il y a comme une sorte... puis, on en a déjà parlé ici, là. Il y a comme, je dirais, comme presque un refus de servir... une façon de décourager les usagères à venir à demander un rendez-vous.
Dans certains cas, il y a vraiment un refus parce que les salles ne sont pas adaptées. Dans d'autres cas, on accepte ces femmes-là, mais on ne les traite pas de façon convenable. Par exemple, là, il y a une dame qui disait qu'elle avait été mise sur la table et qu'il y a des gens qui tenaient ses jambes parce qu'elle était probablement spastique. Et donc, il y avait 4 messieurs qui tenaient les jambes de la dame pendant qu'elle se faisait examiner par le gynécologue. On peut évidemment se douter que ce n'est pas une situation confortable.
Non, exact. Puis je
4
pense que
inconnus de sexe masculin qui sont en train de tenir les jambes pendant que tu fais un examen gynécologique. Moi, je m'en passe.
Je pense que le droit à la dignité, là, ça fait partie des droits fondamentaux de la patiente.
Donc, quand on les reçoit, souvent, on les reçoit de façon malhabile, on répond pas nécessairement à leurs besoins. Des fois, il y a toutes sortes de mal compréhension. On pense que ces femmes-là n'ont pas de relations sexuelles. Des fois, on va répondre à leur place sur les formulaires comme quoi ils n'ont pas de relations sexuelles. On ne veut pas faire les examens requis en pensant justement qu'ils n'ont pas besoin de ces examens-là parce qu'ils n'ont pas de vie sexuelle active. Ce genre de choses. Bien sûr, quand c'est temps de passer des mammographies ou des tests...
C'est un peu la même chose.
C'est un peu la même chose. Machine à la mammographie pour ceux qui connaissent ça, donc ceux qui en ont déjà vu, il faut se mettre debout.
Oui.
C'est très, très inconfortable. Et donc, pour quelqu'un qui ne peut pas se mettre debout, la machine n'est pas du tout adaptée pour faire ce genre de test à quelqu'un qui est en fauteuil roulant. On parle donc des risques de chute, on parle de personnes qui se sentent tout à fait inadéquates ouais. dans ce type de rendez-vous-là. Ouais. Et ça peut décourager, évidemment, les femmes à prendre le rendez-vous et à y aller,
faire un suivi.
Parce qu'elles savent qu'elles vont être maltraitées et que ça va être gênant. Et donc, ça peut, dans certains cas, mener à des cancers, par exemple, ouais. ou à des maladies graves qui ne sont pas détectées parce que les femmes n'ont pas pu avoir de rendez-vous ou les rendez-vous qu'ils ont eus n'ont pas répondu à leurs besoins.
Exact. Oui, tout à fait. Ça fait pas un dépistage adéquat dans la population. Puis c'est comme un refus de service comme indirect. C'est Marjorie Onos, A-U-N-O-S, qui en a parlé dans les médias au cours des dernières semaines. Et puis, voilà, on va continuer d'appuyer là-dessus. Parlons INCA. Le hub mobile de l'INCA, fera un arrêt à Gatineau. Et ça, c'est comme maintenant. On parle du 31 janvier au 1er février.
Oui, donc c'est tout à fait bientôt, François. Il va y avoir quelques ateliers qui vont pouvoir être vécus par la population. On peut s'inscrire pour ceux que ça intéresse. Donc, on parle au CISS de l'Outaouais, donc il y a ressources, au 92 boulevard Raymond, au local 403 à Gatineau. Donc, le mercredi 31 janvier, on parle d'applications utiles au quotidien, donc des applications mobiles sur les téléphones.
Exact, et puis ça nous fait plaisir de dire que c'est Lynn Dubé, notre chroniqueuse techno, là, qui était avec nous au début de l'émission. On connaît Lynn, là, elle est une personne qui communique bien et qui connaît tout à fait ses affaires, de 14h30 à 16h30, donc le 31 janvier.
Oui, et donc le jeudi 1er février, on parle d'un atelier de soutien à la communication, donc qui met les bases d'une communication saine, qui apprend à communiquer avec vos proches, à communiquer vos besoins. Pour les personnes qui ont plus de difficultés à communiquer, qui se sentent un peu des fois maladroits dans leur façon de communiquer. Donc ça, on parle du jeudi 1er février de 10h à 11h30.
Et avant d'oublier de se rendre au jeudi, le mercredi 31, de 17 à 19h, il y a un atelier jeunesse sur les relations sociales. Alors, les jeunes, jeunes dans le sens large, 16 à 30 ans, cet atelier permettra de mieux connaître et d'aborder les interactions sociales avec confiance. Ça donnera l'occasion aux participants de partager les expériences, les craintes, puis aussi les bonnes choses qui peuvent arriver, parce que la sociabilisation est une étape importante dans la vie. Et souvent, un jeune qui est en situation d'handicap visuel, ça fait des grosses barrières.
Il y aura de la pizza, François. Donc,
il y aura de la pizza? Ah, s'il y a de la pizza...
Ouais, juste pour la pizza, j'y vais.
Ah! j'ai de la parenté à Gatineau, alors ça va me faire plaisir d'aller y faire un tour. Cela dit, également, pendant qu'il est encore temps, à l'intérieur du calendrier culturel qui nous est offert par nos amis du RAM, samedi le 3 février, et là, on est à Québec. Coup de vieux présenté au Trident, parce que le Trident, là, Théâtre Québec, Trident, là, c'est dans la même phrase. Au coup de vieux qui est présenté au Trident avec une audio-description à 16h, samedi le 3 février. Ça, c'est également présenté le 6 avril au Théâtre d'aujourd'hui. Ah, ça, on est plus près de chez nous. Le Grand Théâtre de Québec, va tenir cette représentation. On parle du 3 février à 16h. Samedi, le 10 février, une collaboration de Densité et du Centre MAI avec audio-description. Il va y avoir donc un spectacle au Centre MAI au 3680 Jeanne-Mance à Montréal à 19h30 le samedi 10 février. Alors ça va être à retenir. Et puis, il y aura d'autres événements culturels dont nous ferons mention plus tard. Voilà. Élisane, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Oui,